Ce soir, j'aimerais vous parler de la patience et de la détermination. Ce sont deux des paramitas. Les paramitas sont des puretés du cœur, c'est-à-dire que c'est la patience et la détermination en lien avec la pleine conscience. Le but de la méditation, il y a deux buts dans la méditation. D'une part, ne pas s'agripper, tout particulièrement à nos opinions. Lâcher la soif. Et d'autre part, de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Ce sont les deux ailes de l'oiseau, la sagesse et la compassion. Et la détermination est plus particulièrement liée à la sagesse, à la pleine conscience elle-même. Et la patience est plus liée à l'objet que nous observons. La patience, c'est de la compassion pour le monde, en moi et hors de moi. Donc, une retraite, c'est une manière de passer de avidya, la non-connaissance, à la connaissance, de l'oubli au souvenir. Et ça n'est pas un chemin facile. Mais c'est un chemin possible, le Bouddha l'a dit. Je ne vous demanderai pas de faire ça si c'était impossible. Je sais que c'est dur. C'est Vante Gunaratana qui dit, c'est vrai, c'est difficile, mais mieux vaut faire ce qui est difficile que ce qui est impossible. C'est impossible de trouver le bonheur dans le monde conditionné. Donc il y a l'exercice et le but. Et le but n'est pas une bonne expérience. Le but, c'est vraiment ce respect et cette ouverture à l'instant. Donc nous sommes déjà là où nous voulons aller. Et le chemin, c'est de passer à travers la dépression, la confiance, la confusion, la clarté, l'avidité, le lâcher prise. Et de voir peu à peu que je ne suis ni l'un ni l'autre, ou peut-être que je suis les deux, qu'il y a autre chose que ce refuge dans ce qui est impermanent. Et le problème, c'est simplement que je ne le sais pas. Nous ne le savons pas suffisamment profondément. Nous le savons un peu intellectuellement, déjà un peu au niveau de l'expérience. Et par l'exercice, tout ça s'approfondit jusqu'à ce qu'il y ait une unification entre le conditionné et le non-conditionné. Et la patience et la détermination nous aident pour orienter la conscience de la bonne façon. Parce que le problème, c'est que nous voulons aller vers l'abandon du moi, mais avec le moi. Nous devons employer le moi pour aller vers l'abandon du moi. Donc, ça demande une certaine subtilité. La patience, c'est une qualité de la conscience. C'est lié à la sagesse qui sait tenir l'expérience de la bonne façon, c'est-à-dire qui sait que nous ne pouvons pas vouloir l'éveil. Nous pouvons manipuler les choses, mais ce que nous manipulons, ce que nous contrôlons, va revenir. Ça va revenir encore et encore, jusqu'à ce que nous puissions donner notre attention à l'énergie dans l'instant. Donc la qualité de patience, ça n'est pas une expérience de patience. C'est savoir installer la patience avec tout ce qui émerge, entre autres l'impatience. C'est pour ça que quelqu'un me disait, mais c'est quoi, tu dis que pour travailler la patience, il faut voir l'impatience. Ben ouais, j'aimerais être patiente. Mais si vous pouvez voir l'impatience, vous êtes parfaitement patient. Et la patience, c'est quelque chose que nous pouvons reconnaître comme qualité qui est tellement beau, la patience. D'une certaine manière, nous sommes hors du temps lorsque nous sommes dans la patience. C'est beau. On peut sentir la résonance. Quelque chose est posé, tranquille. Le contraire, c'est le stress, l'impatience. Nous sommes enfermés dans le temps et le mental prend le pouvoir, l'acte, la parole, l'attitude. Il y a quelque chose de gratuit dans la patience qui est beau. La patience d'une maman avec son enfant. Et l'impatience d'une maman avec son enfant. C'est terrible, alors que l'enfant est posé dans l'instant. On le sort de cette unification violemment, souvent. Alors, j'aimerais vous lire Nasruddin. C'est ce fou et ce sage soufi qui est un grand adepte de l'exercice gratuit. Nasruddin vient de se marier et il a emmené sa femme dans sa petite maison aux bordures de forêt. Tout va bien, ils sont heureux. Tous les matins, pourtant, Nasruddin s'installe dans un coin de la chambre à manger et reste en silence avec l'oreille tout près du mur. Et il interdit à sa femme de le déranger. Un jour, n'y tenant plus, elle lui demande « Mais qu'écoutes-tu donc le matin près de ce mur ?»« Si tu veux le savoir, fais comme moi » répond-il. Le matin, les voilà tous les deux assis en silence près du mur. Au bout de quelques semaines, sa femme lui dit timidement « Tu sais, j'ai beau écouter attentivement, je n'entends rien. »« Ah, mais quelle impatiente tu es !» répond-il. « Moi, ça fait 2 ans que j'écoute et je n'entends toujours rien. La patience, c'est quelque chose qui est difficile à installer dans une retraite. Pourquoi est-ce que l'impatience est tellement là? C'est que notre monde va trop vite, tout va trop vite dans notre monde. Nous marchons trop vite, nous parlons trop vite, nous roulons trop vite dans nos voitures, nous décidons trop vite, nous mangeons trop vite. Quelquefois, quand on se trouve avec des personnes qui, dans des familles paysannes, ou peut-être que certains d'entre vous ont vécu enfants dans des familles paysannes, où tout d'un coup, ce rythme de la terre est là, avec le corps. C'est tellement bon. Donc, nous pouvons sentir comment, parfois, nous sommes pris par l'impatience, que ce soit avec nos proches, avec nos collègues, dans le trafic. Il n'y a rien de plus facile que d'être impatient quand on conduit. Dans des situations, et comment ça nous branche sur une certaine chaîne. Il y a 100 chaînes différentes. Paf, la chaîne est là. Chaîne TV de l'esprit. Et en retraite, c'est un gros travail parce que les obstacles demandent de la patience, les pensées demandent de la patience. L'attention demande de la patience, elle part tout le temps, revient. C'est Jack Canfield qui donnait l'image d'un petit chien comme si on apprivoise un petit chien. On lui dit au pied, reste. Puis on part un tout petit bout, tout content, il file. Au pied, reste. Ça demande une grande gentillesse et une grande patience. Et puis la patience avec la tante. C'est l'avant-dernier jour de la retraite. Combien de fois est-ce que je me suis projetée à l'extérieur aujourd'hui? Peut-être pas, peut-être oui. Et dans notre vie aussi, nous avons besoin de patience avec notre personnalité, ce qu'on appelle en PRH les RDR, réaction disproportionnée répétitive. Nous avons besoin de patience avec nous-mêmes, parce que les mêmes énergies reviennent encore et encore. Et dans une retraite, on les revoit. Et quelquefois, on croit, ah ça y est, c'est bon, c'est loin. C'est la meilleure façon de les recréer. Parce qu'il vaut beaucoup mieux être toujours prêt à ce que ça revienne et alerte. Si nous nous disons c'est bon, c'est loin, il y a bien des chances qu'elle revienne pour nous montrer que l'impermanence est une réalité, une structure même de la vie. Et en définitive, peu importe qu'elle soit là ou non, puisque ça nous est égal. C'est ça la pleine conscience et la confiance. Et la force de la présence. Que ce soit là ou non, ça n'est pas ce que je suis. Donc au fond, ça m'est égal. Ça, c'est la libération. La patience, c'est donc une énergie qui est ancrée dans le lâcher prise. Ça n'est pas d'attendre quelque chose pendant longtemps. La patience. Et c'est une forme de renoncement. Il y a beaucoup de choses dans la patience. Il y a une amplitude, il y a le calme, il y a le renoncement, il y a une forme de générosité. Il y a beaucoup de choses. Nous pouvons reconnaître quand cette qualité est là. Dans le bouddhisme, on dit « Fais le bien, évite de faire le mal, cultive ton esprit. » Fais le bien, c'est penser à installer la patience. Évite de faire le mal, c'est ce travail avec l'impatience. Quand c'est là, ok, je reconnais, j'ouvre le cœur, si je peux lâcher prise, c'est bien. Autrement, j'attends. Anicca, ça va lâcher. Et cultive ton esprit. Savoir-faire, cette compréhension, comprendre, prendre avec, comprendre l'esprit. Et dans la patience, il y a quelque chose de beau, c'est qu'il y a un lâcher-prise du sens du moi. Une non-séparation et l'absence de création de karma. Alors que dans l'impatience, le jeu est titillé et les choses ne sont pas comme je les aimerais. Et souvent, il y a une création de karma. Quelque chose n'est pas en repos. Nous pouvons venir avec l'agréable, désagréable. Goûter l'agréable de la patience. Il y a une écoute, il y a une réceptivité. Et sentir dans la patience comment l'esprit se remplit de réactivité, d'énergie douloureuse. La patience est liée, d'une certaine manière, c'est un temps divin. Et puis, la détermination. La détermination, c'est une détermination qui est ancrée non pas dans l'ambition, dans le contrôle, mais qui est ancrée dans l'amour pour la vérité. Je suis déterminée à être là. Je suis déterminée à installer l'exercice, à accepter de donner de moi par amour pour la vérité. Et il y a deux aiguillons pour nous pousser à la détermination. D'une part, c'est dukkha, la souffrance. Souvent, j'ai des personnes qui viennent faire de la méditation pendant 1 année ou 2, puis après, je ne les vois plus pendant très longtemps. Puis tout d'un coup, elles reviennent. Ah ouais, pourquoi vous êtes là? Oh, j'ai ce problème, ce problème. Quelque chose arrive qui fait que ça devient brûlant, que je me libère. Et l'autre aiguillon, c'est Chanda, c'est cet amour pour la vérité. Cette persévérance, elle est essentielle. Dans nos vies, trouver comment soigner la présence, comment mettre en place des moments extraordinaires. Chacun a son rythme, à sa façon. Et en retraite, ce qui porte beaucoup de fruits, c'est la continuité de l'exercice. Si je peux être là le matin quand je me réveille, si je peux continuer à être là quand je descends l'escalier, quand j'ouvre la porte, quand je mange. C'est le petit prince qui dit, c'est le temps que tu as passé avec ta rose qui rend ta rose précieuse. Parce que je passe du temps à cultiver le dharma, cette vérité, alors la vérité devient précieuse pour moi, vraiment précieuse. Au début, je l'oublie tellement souvent. Et bien sûr, dans une retraite, il y a des doutes, parce que ce qui se met en lumière, c'est beaucoup la dualité en nous. Comme nous n'échappons plus, hein, avec le frigo, le téléphone, la télé, les copains. Nous voyons cette dualité, c'est pénible. Et alors, avec l'impatience, vient, oh, il n'y a rien qui change, ça ne va pas. Et nous devons être comme Ulysse, nous boucher les oreilles par rapport aux sirènes de l'ignorance. Autrement, nous partons. Et la détermination, ça n'est pas une détermination pour partir, c'est une détermination pour rester. Petite histoire de Nasreddin. Ce soir, c'est le soir Nasreddin. Nasreddin a fait à sa femme un reproche qui l'a rendue furieuse. Elle le poursuit comme une furie dans toute la maison pour le frapper avec son balai. Après avoir cherché vainement un endroit pour se mettre à l'abri, Nasreddin file se cacher sous la table. Sors de là, lui crie sa femme en levant le balai. Non, je ne sortirai pas, répond Nasreddin. Sors de là si tu es un homme. Eh bien, justement, je suis un homme, et quand un homme dit non, c'est non. Donc, avec la détermination, continuer à faire l'exercice, même si je n'ai aucun fruit. Aucun élan, même si tout ce qui est là, c'est l'esprit qui se plaint. D'une certaine manière, le souci du regard de l'autre est très positif dans une retraite, parce que je ne pars pas parce qu'il y a les autres. Les autres quand je rentrerai chez moi, les autres qui sont ici. C'est plus facile d'aller se coucher pendant la méditation marcher quand personne ne me voit que quand c'est l'assise. On peut voir comment les autres nous aident. La détermination, elle nous. Elle nous est offerte par la Sangha. Notre fermeté, elle est ébranlée par nos pensées. C'est nos pensées de doute auxquelles nous croyons. Le doute est puissant. Il nous fait douter de nous-mêmes, il nous mène dans le désespoir. Je n'y arriverai jamais, c'est pas un chemin pour moi. Je vois qu'il est beau, mais je pourrai pas. Ou bien il nous mène dans le doute par rapport à la tradition, c'est une autre qu'il me faut. Ou dans le doute par rapport à l'enseignant, dans le doute par rapport à l'endroit, la nourriture. Et les pensées ont l'air vraies, dans le doute, les pensées ont l'air vraies. C'est des moments où tout à coup, j'y crois complètement. Et je ne vois pas qu'avant c'était autrement, et qu'après ce sera autrement. Le Bouddha a parlé de 5 moyens habiles avec les pensées, que j'aimerais rappeler à certains et proposer à d'autres, et que nous faisons déjà pendant cette retraite. La première, c'est de remplacer les pensées par des paroles de metta, non pas par aversion, mais par discernement. Le deuxième, c'est de laisser être les pensées et de les nommer quand elles émergent, un exercice tout particulièrement utile avec le jugement. Nommer le jugement encore, encore et encore. Vous pouvez même faire toute une heure où vous vous asseyez et vous mettez en priorité l'intérêt pour la pensée et en particulier le jugement, si vous êtes dans un moment comme ça. Passé, futur, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Autant le contenu de la pensée peut nous mener absolument partout, autant l'énergie de la pensée est simple. Lorsqu'on a eu passé, futur, jugement, évaluation et imaginaire, je crois qu'on y est. Avec le doute peut-être. Nous pouvons avoir une réflexion sur l'utilité de laisser venir les pensées. C'est important de donner un petit aperçu au contenu quand même, quand elles émergent. Parce que quand le même contenu est émergé 20 fois, 300 fois, on peut quand même se dire que franchement, c'est peut-être pas utile. Et c'est un moyen d'employer la sagesse pour que nous nommions plus rapidement la pensée et que nous lui permettions plus vite de lâcher. Nous pouvons aussi questionner l'énergie qui est derrière. Qu'est-ce qui crée la pensée ? Et venir dans l'énergie qui est derrière. Nous pouvons rester longtemps dans des pensées de doute si nous ne voyons pas l'énergie du doute qui est derrière. Mais si nous venons si nous questionnons, est-ce que c'est le doute ? Ah oui, c'est le doute. Oh, c'est le doute. Blanc, noir, là, c'est le doute. Ah ben, je peux lâcher le contenu. Ou bien l'aversion. Ou la peur. La peur peut créer énormément l'inquiétude, peut créer des pensées sans fin. Et puis, il y a un cinquième moyen habile, lorsque rien ne marche, c'est de dire non. Cette fois, non. Ça, c'est de la détermination. Ras-le-bol de ses pensées, je dis non. Et le Bouddha prend l'image d'un homme ivre qui casse tout dans un bistrot et il faut le terrasser et le plaquer au sol. Donc là, il faut une certaine violence ou en tout cas une puissance. Parce que le problème, c'est que nul autre que moi-même ne crée mes pensées. Je suis le propre créateur de ma souffrance. Et j'ai beau le voir intellectuellement, quand nous sommes sous l'emprise de l'identification, quelque chose se voile. Il y a une opacité de la conscience qui fait que je peux voir, mais seulement après coup. Je vous lis Nasruddin, qui illustre, l'histoire illustre bien comment nous créons nos pensées et que nous nous plaignons. À midi, comme d'habitude, Nasruddin arrête de travailler dans son champ et il va manger son casse-croûte à l'ombre d'un arbre avec un paysan voisin. Il ouvre sa besace et en sort le contenu, un morceau de pain, un bout de fromage et un demi-oignon. Toujours la même chose, grommelle-t-il mécontent. Tous les jours qu'elle a fait, le même morceau de pain, le même fromage, trop salé, un oignon. Pff, à moitié pourri, n'y a-t-il pas autre chose à manger sur cette terre? Pain, fromage, oignon, pain, fromage, oignon. J'en ai assez. Je te comprends, dit son compagnon qui vient d'entamer une belle cuisse de poulet. Mais pourquoi ne demandes-tu pas à ta femme de te mettre autre chose? Impossible, dit Nasruddin, elle n'est pas là, c'est moi qui prépare le casse-croûte. Donc, avec la détermination, nous installons l'exercice, nous maintenons l'exercice, il y a cette rigueur. Et dans cette rigueur, nous pouvons reconnaître la même chose que dans la méditation marchée, quand nous lâchons le choix, que nous faisons pour rien, il y a un repos, quelque chose de très bon qui s'installe, parce qu'il y a une absence de moi. Il y a cette absence de désir qui peut être goûtée. Je fais, c'est tout. Et ce qui importe, c'est de faire. C'est pas ce que nous obtenons. Il y a l'image d'un baquet dans lequel on laisse tomber des gouttes de présence. Le but, c'est de laisser tomber la goutte. Chaque goutte est importante. C'est pas combien le baquet est plein. Parce que l'éveil, ça n'est pas quelque chose de logique. De même qu'il faut frapper à la porte jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la fenêtre pour voir qui est là, la joie à l'intérieur qui ouvre cette fenêtre. L'autre image, c'est de frapper une bûche. On ne sait pas quand la bûche va éclater. On la frappe 10 fois et à la 11e, elle éclate. Je frappe exactement la même chose. Dans l'ordinaire, nous sommes toujours dans l'émissivité instinctive. Les choses se font vite et j'agis, je parle, ça sort. Dans une retraite, nous apprenons à être dans la réceptivité. La pleine conscience est au fond qu'une grande oreille ou qu'une grande... toile sensible. Et nous recevons. Donc la détermination, ça n'est pas une détermination pour obtenir. C'est cette détermination à continuer à recevoir. À voir et à recevoir. À dire ok à l'expérience. Et lorsqu'il y a cette... constance qui s'installe, alors cette réceptivité a permis de rencontrer et on peut dire que j'ai vu ce qui était bénéfique, ce qui était non bénéfique, et alors quelque chose lâche. Et peu à peu, avec l'habileté à employer la pleine conscience, nous pouvons mettre en place exactement l'outil qu'il faut pour que très vite le lâcher-prise se passe. Et au fond, ce n'est pas tellement une question de... d'outils, parce que les outils, nous les avons, mais savoir vraiment vite les employer au bon moment, de manière à ce que nous ne restions pas trop longtemps dans la tristesse, pas trop longtemps dans la réactivité. C'est Rumi qui dit « Ne restez pas trop longtemps dans la tristesse, mes amis. Quand vous allez dans un jardin,
Est-ce que vous regardez les épines ou bien les roses et le jasmin?
Donc il y a une forme, on en a déjà parlé, de retournement du moi, qui fait que l'expérience n'est plus prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est cette question, est-ce que je suis là? Et c'est suffisant. Et dans l'interrelationnel, si le mouvement premier lorsqu'il y a un contact, c'est non pas l'expérience, mais cette présence, est-ce que je suis là? Alors nous créons un espace. Et au lieu d'être dans cette émissivité instinctive, il y a une réceptivité consciente et une émissivité choisie. Une émissivité qui est consciente, il y a un choix sur nos actes et nos paroles. Et c'est bon. Et nous pouvons sentir énergétiquement quand ça va trop vite, entre la patience par rapport à l'expérience et la détermination de présence, les choses ne sont pas complètement installées, alors ça va vite, et énergétiquement, je sens ce stress. Et je peux aussi sentir quand tout à coup ça devient simple et bon. C'est parce que nous avons cette détermination, ce courage et cette patience de laisser être les moments de réactivité que peu à peu nous touchons au non-effort. Et dans une retraite, le non-effort ne veut pas dire que l'expérience devient parfaite, elle est exactement pareille, mes chers. Il y a des pensées de temps en temps, il y a de temps en temps un petit moment où j'ai mal au genou, il y a de temps en temps un petit moment où mes épaules bougent, il y a de temps en temps un petit moment où je pense au passé, au futur. Ce qui est changeant, c'est que si je veux faire ce que je veux faire, je peux. Mais ça n'est plus l'effort juste c'est simplement de laisser être. Et quand quelque chose ne va pas, d'avoir les outils qu'il faut. Et le lâcher prise, il émerge de la détermination à être, non pas à être ceci ou cela. Et au début, nous avons besoin d'être ceci ou cela, nous avons besoin d'installer l'exercice. C'est important de le faire. Chercher, questionner cet effort juste. Détermination pour être là et patience pour ce qui est là. Encore une petite histoire. Mon Dieu, jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai tout fait bien. Je n'ai pas babillé stupidement, je n'ai pas perdu patience, je n'ai pas été égoïste, ni irritée, ni méchante, je n'ai pas été trop indulgente, je suis assez fière de moi-même. Mais dans quelques minutes, mon Dieu, je vais sortir de mon lit, et alors j'aurai sûrement grand besoin de ton aide. Au début, la détermination doit s'installer avec beaucoup d'efforts au niveau du corps. Le
corps se perd sans cesse. Et quand j'y reviens, j'ai des doutes parce que ça n'est pas immédiatement efficace. L'expérience ne change pas. Parce qu'en fait, ce que je veux inconsciemment, c'est que l'expérience change. Alors quoi, on me dit de venir dans le corps. Je suis dans le corps, puis ça continue. Détermination à revenir au corps. Détermination avec l'énergie agréable, désagréable et neutre. Parce que je pense à le faire quand je vous en parle, et puis après, tout à coup, c'est désagréable, mais je ne vois pas, et je suis déjà dans la pensée, que je n'ai même pas conscientisé la qualité de l'expérience. Et ça aide beaucoup. Nous n'avons en général pas qualifié la qualité agréable de l'expérience. Nous allons tout de suite trouver comme c'est chouette, comme je réussis bien, comme tout va bien. Et être attaché inconsciemment, tout est bon, tout va bien. Mais c'est pour ça que la souffrance est un aiguillon, parce que quand c'est désagréable, je veux bien chercher. Et je m'habitue peu à peu à dire « Ah mais attends, là c'est devenu désagréable. » Parce que ça passe vite de l'un à l'autre. C'est tout bon, tout bon, tout bon, tout bon, et puis paf, c'est désagréable. Ah, comment ça se fait? Mais pourquoi c'est pas comme avant? Et au niveau de la pensée, on en a parlé. Et alors l'effort devient abondant. Cette réceptivité de la pleine conscience fonctionne. Quelque chose est vaste, tranquille, alerte, tout de suite prêt à apaiser lorsque quelque chose tremble. Et nous nous approchons de plus en plus de la nature de la conscience qui est silence et espace tout accueillant. Donc je le redis. Dans une retraite comme dans nos vies, l'éveil, c'est de voir et la souffrance et la beauté, et de savoir que je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est Durkheim qui dit « L'expérience de l'être amène l'ombre au premier plan, ainsi que toutes les déformations de l'être projetées par l'inconscient. Et cette rencontre avec l'ombre est la condition nécessaire à un éveil de l'être essentiel. Qu'est-ce l'ombre, sinon la lumière, sous l'apparence de ce qui la cache ? » L'éveil est à l'intérieur de ce qui fait mal. Ça n'est pas à côté. On va taper sur le clou. Je vous donne peut-être pour terminer les deux images de la patience et de la détermination. La patience, c'est l'image de l'espace. Tout comme l'espace laisse passer les nuages, la patience accepte l'aversion, le jugement ou le mépris sans résistance, en ouvrant le cœur et en les laissant passer. Et puis la détermination, c'est l'image d'une montagne. Tout comme une montagne demeure immobile et stable face à un vent violent, tout comme il est impossible à la tempête de la faire vaciller, la détermination consiste à nous faire rester inébranlablement fidèles à nos résolutions, à ce qui est juste et bon, et à ne nous laisser distraire pour rien au monde. Et les choses fonctionnent ensemble, je dis encore juste ça, entre l'abandon du moi et ses qualités de paramita, de patience et de détermination, les choses fonctionnent ensemble. Parce qu'il y a l'abandon du moi, la patience et la détermination deviennent claires, deviennent utilisables. Et parce que nous pensons à les utiliser, le moi lâche, ça va ensemble. Je vous en dis encore une quand même, d'Ajahn Suchito, puisqu'elle est là.
Quand les êtres humains sont attirés par la vérité, ils développent des qualités très belles. La bonté, la douceur, la patience, la générosité sont les aspects naturels qui accompagnent la réalisation de l'abandon d'une vue égocentrée.